On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce lundi de Pâques. Certains d'entre vous sont peut-être encore en famille ou sur la route du retour de ce grand week-end. D'autres ont travaillé ou y sont encore. Vous êtes de toute façon tous les bienvenus. Et comme c'est Pâques, eh bien on va parler ce soir de chocolat. Avec vous qui adorez le chocolat, pour qui c'est peut-être même une drogue, vous qui travaillez le chocolat, qui faites des trucs bizarres aussi avec du chocolat. Allez, c'est possible. On a 2 heures pour se régaler et 2 heures pour en parler. Allez, je reprends un petit coco de Pâques et puis j'arrive.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
C'était normal d'ouvrir l'émission avec la femme chocolat parce que le chocolat, c'est le sujet dont on se dit tout jusqu'à 22h. On va le goûter, on va le sculpter, on va le fabriquer, on va le sublimer. Mais avant toute chose, on va aussi éviter de culpabiliser et on va essayer de répondre à cette grande question. Est-ce que le chocolat, c'est bon pour la santé? Est-ce que le chocolat, ça fait grossir? Et c'est Nathalie qui va répondre à cette question. Bonsoir Nathalie, alias Docteur Bonne Bouffe. Bonsoir à vous.
Bonsoir à toutes et à tous.
Docteur Bonne Bouffe, c'est votre blog santé et nutrition. Vous-même, vous êtes nutritionniste. On se pose souvent 50 000 questions avec le chocolat. Est-ce que c'est bon pour la santé? Alors, est-ce que c'est bon, oui ou non? Est-ce qu'on a le droit d'en manger?
Alors, je pense que ma réponse va sûrement rassurer plus d'un. Alors, oui, c'est bon pour la santé. En fait, on retrouve dans le chocolat des composantes qui sont très intéressantes sur le plan nutritionnel. Grâce à la teneur en cacao, en fait, et c'est ça qui est assez rare, en fait, pour un produit sucré. Déjà, on retrouve un certain nombre de minéraux qui sont indispensables pour notre organisme. Par exemple, le magnésium, qui est essentiel pour le système nerveux. Il évite les crampes, il atténue le stress. Or, on a plutôt tendance à en manquer au quotidien. Le chocolat est également riche en fer, pour la prévention de l'anémie, et également en fibres. Ça, on a tendance à l'oublier, mais oui, le chocolat noir, surtout.
Ça remplace l'haricot vert, alors.
Exactement, ça peut aussi réguler le transit intestinal, donc parfait après les fêtes.
Vous nous parlez beaucoup de chocolat noir, il y a quand même une différence entre le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc aussi.
Ah oui, tout à fait. En fait, en termes de valeur énergétique, c'est marrant puisque les trois chocolats ont à peu près le même apport en calories. Par contre, en termes de composition nutritionnelle, ça varie énormément selon les types de chocolat. Et là aussi, cette différence est liée à la teneur en cacao, puisque plus le chocolat est noir, plus il a une teneur riche en cacao, et donc plus il a des minéraux dont on parlait, donc le magnésium, le fer, les fibres, les antioxydants aussi. Alors que le chocolat au lait, par exemple, il est moins riche en cacao, parce que les industriels ajoutent du lait dedans pour le rendre moins amer et plus crémeux. Et par exemple, le chocolat blanc, lui, il n'a pas du tout de cacao. D'ailleurs, c'est pour ça que le chocolat blanc est blanc, en fait. Et c'est dommage, puisque du coup, il perd un peu ses valeurs nutritionnelles.
Mais en termes de calories, c'est pareil entre le blanc, le noir et le au lait?
Oui, c'est à peu près pareil. Un carré compte environ 50 calories, ce qui est assez raisonnable.
Donc si on est au régime et qu'on est un peu accro au chocolat, c'est pas incompatible, en fait?
C'est pas incompatible, non, bien qu'on on essaiera de privilégier le chocolat noir autant que possible, puisqu'il est du coup plus riche en cacao et il y a peu ou pas de sucre, contrairement au chocolat au lait ou au chocolat blanc.
Ouais, le chocolat blanc, j'ai l'impression que c'est que du sucre, hein, un petit peu quand même au goût.
Pratiquement, hein. Oui, pratiquement.
On dit souvent, prendre du chocolat, c'est bon pour le moral. Nous, les filles, quand on est un peu fatiguées, qu'on a nos ragnagnas, on se jette parfois sur le chocolat. Il y a quelque chose qui va avec sur cette histoire de morale, de bonheur.
Tout à fait, c'est vrai. En fait, dans le chocolat, il y a des substances qui libèrent des endorphines. L'endorphine, c'est un peu l'hormone du plaisir. Et c'est pour cette raison qu'en fait, après avoir mangé du chocolat, on se sent on se sent heureux, on se sent plein de joie. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on dit que le chocolat a un effet antidépresseur.
Mais on
c'est
y va.
Grâce à ces substances.
On y va avec modération, évidemment. En tant que nutritionniste, vous n'allez pas nous dire de nous gaver de chocolat pour se sentir bien. Sinon, il y a d'autres problèmes derrière à gérer.
Bien sûr, mais globalement, il faut garder en tête que Pâques, c'est aussi un moment convivial en famille et c'est important de se faire plaisir. C'est très important d'ailleurs de se faire plaisir dans le cadre d'une alimentation saine, donc pas d'inquiétude à avoir si on se lâche un peu plus ce week-end sur le chocolat.
Bon, c'est déjà trop tard parce que je me suis déjà bien lâchée, moi, figurez-vous. Comment on peut rééquilibrer? Tiens, justement, là, on est lundi soir, on a pas mal mangé, on a fait des gros repas aussi, j'en profite. Hein.
Oui.
Petite détox à partir de ce soir, à partir de demain, c'est un petit peu normal, là?
Oui, c'est un petit peu normal. Je pense que l'idée, c'est de reprendre une alimentation équilibrée. Si on sent vraiment qu'on est vraiment mal, qu'on est allé trop loin, par exemple le mal de ventre, la fameuse crise de foie, hein, rien de grave, heureusement, mais il est conseillé de mettre un petit peu au repos son système digestif jusqu'à que ça aille mieux. Donc en buvant beaucoup, par exemple des tisanes, du thé, mettre de côté du coup l'alcool, qui irrite encore plus l'estomac, et favoriser par exemple le riz blanc, les bouillons, les compotes, le temps que notre estomac se remette un peu des excès du week-end.
Et pas de chocolat chaud donc?
Non, privilégier plutôt les tisanes et le thé.
Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous ce soir.
Et
pour
pas de quoi.
Tous ceux qui veulent avoir des bons conseils, rendez-vous sur votre site, c'est docteurbonnebouffe.com.
C'est bien ça.
Merci beaucoup, bonne soirée à
Merci
vous.
Merci à vous, bonne soirée.
Au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on écoute vos histoires de chocolat avec vous qui travaillez peut-être dans le chocolat. On pense aux chocolatiers, aux pâtissiers, mais aussi avec des passionnés de chocolat, de l'histoire du chocolat ou du chocolat tout court. Hein. C'est le cas de Sylvia qui nous a rejoint sur France Bleu. Bonsoir Sylvia.
Bonsoir.
Alors vous, le chocolat, vous le collectionnez pas très longtemps, si je comprends bien.
Moi, le chocolat, je peux pas le garder. Il m'en faut tout le temps sous la main.
Tout le temps, voilà. Ça veut dire vous pouvez pas sortir sans chocolat ou vous pouvez pas rester à la maison s'il y en a plus.
Si je peux sortir sans chocolat parce qu'il y en a partout, donc ça c'est bon. C'est compliqué pour moi de ne pas en avoir à la maison. C'est une angoisse. Et je suis déjà ressortie alors que j'étais en pyjama pour acheter du chocolat. Quand j'étais plus jeune. Je me souviens même avoir pris ma voiture, parce que quand j'étais plus jeune, en 1912, il y avait beaucoup moins d'épiciers hein, ouverts la nuit, tout ça.
Ouais.
Et je me souviens que j'allais acheter des Rocher Suchard au drugstore Publicis, qui était le seul endroit...
Qui était ouvert toute la nuit.
Ouais, où on pouvait en trouver. Et donc, je me suis rhabillée déjà pour acheter du chocolat. Je suis malheureusement... Je dis malheureusement parce que l'addiction au chocolat... Bon, à la fois, c'est sympa parce que j'en mange et que je suis contente d'en manger, que j'en ai besoin... Envie et besoin, c'est pas pareil. Mais je trouve ça dur par moment d'être addict. Et par moment, je fais des pauses en me disant « Allez Sylvia, là tu vas essayer de t'en passer pendant X jours. »
Et ça tient combien de temps? X jours,
ça
c'est
dépend.
Combien
ça dépend. Alors quand c'est l'échec total, ça tient une journée. Je sais qu'au bout de 3 jours, parce que peut-être que les auditeurs le savent pas, mais c'est la réalité, quelle que soit la drogue, hein, même des drogues dures, c'est 3 jours hein, pour se sevrer. Après, c'est qu'une histoire dans la tête.
Ah, vous parlez de chocolat comme une drogue, vraiment?
Ah bah oui, moi c'est une addiction, c'est une drogue, ouais. Ouais. Mm-hmm. Ah bah ouais.
Addiction, c'est quelque chose de... Enfin, moi je trouve qu'il y a une connotation quand même négative, là c'est pas bien méchant
non.
Le chocolat.
En fait, ce qui est dur, je trouve, par moment, c'est que... Moi, j'ai arrêté de fumer, par exemple, il y a 15 ans. Bon, je suis vachement contente d'avoir arrêté de fumer. Je trouve ça hyper dur d'être dépendant, voilà. Mm. Je suis dépendante au chocolat. Donc, par moment, je trouve que ça m'énerve. Ça m'énerve par rapport à moi-même. Hein. Personne ne me le dit, arrête de manger du chocolat, on s'en fout. Donc, par moment, je m'arrête. Il m'est déjà arrivé de m'arrêter 3 mois. Mais je me suis rendu compte que ça peut faire rire, mais c'est vrai. Que si je m'arrête de manger du chocolat pendant un certain temps, par exemple au-delà de 15 jours, 3 semaines, je déprime.
Mmh.
Parce que je sais que c'est un antidépresseur.
Mais c'est ce qu'elle nous disait, Nathalie, juste avant. Elle disait, ça joue. L'endorphine, voilà, qui est la molécule du bonheur, du bien-être, et on en
c'est
a besoin.
Vrai. Et moi, bon, je suis quelqu'un d'assez gai, de très actif. Voilà, je n'ai pas du tout un côté dépressif naturel. Mais je sais que si ça ne va pas, et que je me tape une barre de chocolat, quand je dis une barre, je plaisante, c'est plutôt une tablette, ça va mieux, hein.
Ouais.
Tout de suite, je me sens apaisée, quoi.
Et est-ce qu'on devient puriste du chocolat quand on est choco-addict, ou est-ce qu'on peut se retrouver à manger des trucs bien dégueulasses, parfois?
Alors, je suis pas du tout une puriste. Je me souviens avoir vraiment... Mes démarrages, c'était vraiment à la fac, hein, j'avais 18 ans, et j'avais pas le temps d'acheter à manger, ou pas envie, ou je sais pas quoi, et j'achetais une tablette de chocolat aux noisettes, au lait de chez... on va pas dire la marque, mais voilà, tout le monde la connaît.
Ouais.
Non, je suis pas une puriste, Et j'ai même fait des trucs horribles, c'est que, alors là, je sais pas pourquoi, j'avais pas de bagnole, ou j'avais vraiment trop la flemme de sortir, ou il était 4h du matin, et je mettais beaucoup de lait, non, un peu de lait, pardon, beaucoup, beaucoup de Nesquik, pour me faire une pâte chocolatée.
Oh non!
Si! Pour me calmer. Pour moi, c'est l'équivalent des gens, et je l'ai déjà fait aussi, qui rallument le mégot, vous savez, que quand on a vraiment plus de clopes, et qui n'a pas fait ça, hein, dans les grands fumeurs, on a tous fait ça. Ben pour moi, c'est l'équivalent, c'est de dire non, là, je peux pas, il faut que je mange du chocolat, et j'en ai pas dans la baraque, donc je vais me fabriquer un truc qui est pas bon du tout. Mais. Ah ben c'est malin, merci de se moquer, Vanessa.
Ah, je me moque pas, je me demande si je l'ai pas fait une fois. Une fois, j'avoue.
Et moi, il y a un truc qui était horrible, mais qui l'est toujours, mais maintenant je mange mon chocolat, j'allais dire pas en loose day, mais quand j'étais plus jeune et que j'achetais par exemple ma tablette à la fac, il y avait toujours un abruti d'étudiant pour me dire tu me donnes un carré. Et bah du coup, je vous jure, c'est vrai, hein, j'ai acheté deux tablettes, parce que si jamais je devais donner un carré, je sais que ce carré va manquer.
Ah ouais, quand même.
Bah ouais, non mais ouais, là, on n'est pas dans du, on n'est pas dans des petits niveaux.
Ah oui,
là,
c'est une vraie addict, hein, vrai addict au chocolat, ça se sent.
Ouais, wow. Non, c'est terrible. S'il manque ce carré, pareil. Alors moi, pour essayer de réduire ma consommation, parce qu'à un moment j'ai quand même eu un peu beaucoup de cholestérol, on va dire, hein. Donc je disais au médecin, peut-être c'est le chocolat. Il me dit essayez de manger du chocolat noir. Bon, ok, super. Bon, j'aime pas, mais ok, je vais me forcer. Et puis achetez plutôt des, vous savez, les petites en portions là, les petites portions.
Oui, enfin, sauf qu'on peut manger tout le paquet de petites portions.
C'est parfait. Bah ouais, c'est parfait. On en mange trois, on dit c'est génial. Oh, je vais en manger deux, ça fera cinq, ça va. C'est pas non plus. Et le pire, c'est qu'on peut pas laisser trois petits bouts de carré tout seuls dans leur paquet. Parce que ils vont être tout malheureux, tout tristes, hein, ils seront beaucoup mieux dans mon ventre. Donc du coup, cette histoire de manger à l'unité, ça marche très bien, mais pas du tout.
Mais pas avec vous. Sylvia, merci beaucoup d'être venue tout nous avouer ce soir sur votre addiction au chocolat. On y retourne là ? On y va chercher du chocolat ? Il y a ce qu'il faut là, oui, je pense.
Voilà, on est bien là.
On est bien. Bonne soirée, Sylvia.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Et bon appétit.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Le chocolat, c'est le sujet d'On se dit tout jusqu'à 22h. Et on parle donc du chocolat ce soir. Et qui mieux qu'un chocolatier pour nous en parler ? Et on l'a, c'est François Granger qui est chocolatier dans le Périgord. Bonsoir, François.
Oui, bonsoir.
Comment on devient chocolatier ? C'est un rêve de petit garçon qui était gourmand. C'est quoi ? C'est une vocation ? C'est un hasard de la vie ?
Ah, c'est plein de choses à la fois. C'est déjà beaucoup de gourmandise. Après, c'est une culture, je dirais une culture familiale un petit peu, parce que quand j'étais gamin, j'allais souvent passer des vacances ou chez mon oncle qui était pâtissier à l'époque.
Oui.
Et puis là, j'ai découvert quelque chose qui me plaisait beaucoup, la pâtisserie et la chocolaterie. Quoi. Voilà.
On est souvent les deux. On est chocolatier-pâtissier. On est rarement que chocolatier.
Alors, je dirais dans les grandes villes, c'est plus facile d'être que chocolatier parce qu'on a un potentiel client qui est beaucoup plus important. Mais ce sont quand même deux métiers totalement différents, dans le sens où, nous, à la maison, on a séparé les labos. C'est-à-dire que les pâtissiers sont d'un côté, les chocolatiers sont de l'autre, et c'est pas les mêmes métiers. C'est pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes exigences, les mêmes contraintes de température aussi.
Oui.
Donc voilà, ce sont deux métiers où on a des applications différentes et des coups de feu différents. Donc voilà, c'est.
Il y a deux grandes saisons pour le chocolat. Alors, on peut manger du chocolat évidemment toute l'année, mais on en voit quand même beaucoup à Noël et à Pâques. C'est très différent. C'est deux saisons très différentes. C'est deux façons de travailler et deux ambiances très différentes, Noël et Pâques.
Ah oui, tout à fait. Alors pour Noël, c'est la création des bonbons au chocolat avec les ganaches, les pralinés, tous les pâtes d'amande, tout ça. Donc là, c'est plus un travail, je dirais, d'application et de maîtrise des températures au dixième de degré près, hein, justement pour les textures des ganaches, où c'est très important, où on a des températures de coulage des ganaches à chaud qui sont vraiment importantes. Donc ça, c'est pour Noël.
Il n'y a pas de ganache à Pâques alors ?
Alors, on peut faire des ganaches à Pâques, mais à Pâques, c'est... Bon, on fait quand même des bonbons au chocolat aussi à Pâques, mais c'est surtout du moulage. hein, c'est ce qu'on appelle le moulage, les œufs de Pâques, les cocottes, les cloches, tout ça. Et après, on a tout ce qui est, je dirais, les fritures garnies.
Oui, oh, c'est bon ça. Et donc, j'en ai encore mangé plein ce week-end. Comment vous faites pour trouver des nouvelles idées? Parce qu'il faut se renouveler. Alors bien sûr, il y a les traditionnelles cocottes de Pâques, les lapins, les cloches, mais on a envie aussi d'apporter quelque chose de nouveau chaque année.
Ah oui, alors chaque année, on travaille sur, sur ce qu'on appelle les montages, c'est-à-dire les petites créations gourmandes à chocolater. Donc ben, cette année, par exemple, nous, on a travaillé sur des petits lapins qui sont en géant du jas. Avec lui, où on a amené une petite pâte sablée à l'intérieur, c'est qui donne un truc sympa. Et après, tout ce qui est fourrage des œufs pralinés, ce qui nous sert à mettre à l'intérieur des moulages, bon, mais tout ça, bien sûr, on le réalise maison. Et, donc ça, c'est beaucoup de boulot parce qu'il faut trouver des textures qui vont bien, il faut trouver les goûts qui nous plaisent surtout. Et, donc à chaque saison, c'est un peu une remise en question avec tout ça.
Moi, je me suis souvent posé la question et enfin, on va avoir la réponse. C'est vous qui faites vos moules, qui les imaginez, ou alors il y a des gens qui vous vendent des moules tout prêts et vous faites un petit peu votre marché avant la saison?
Alors, c'est les deux. Donc, on a des gens, bien sûr, qui vendent des moules tout prêts. Et nous, on a aussi ce qu'on appelle une thermoformeuse, c'est une machine où on fait des moules. Donc, ben pour réaliser des moules, on prend des sujets qui nous plaisent, on les moule en plâtre, déjà. Et après, une fois qu'on a ces matrices, on réalise nos moules.
D'accord, c'est bon à savoir ça, je me posais justement la question. Dites-moi, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, quel est votre préféré? Quand on est pâtissier chocolatier, on a encore le temps de manger du chocolat, j'espère.
Mais bien sûr, on en est obligé, on est obligé de le faire. Après, les préférés, il n'y a pas vraiment de préférence. Moi, j'aime bien à peu près tous les chocolats à partir du moment où ils sont bien mariés. Dans le sens où un gâteau, c'est pas forcément un bon gâteau et pas forcément au chocolat noir. Hein, je vois, on a le croquant, qui est un gâteau qu'on a en marque déposée qui plaît énormément. C'est un gâteau qui est essentiellement à base de chocolat au lait et dont le glaçage est noir. Dessus pour dessucrer un peu ce chocolat au lait, mais c'est un très bon gâteau et pourtant il est au lait. Et après, c'est vrai que si on mange un bonbon au chocolat, l'approche est différente parce que sur le bonbon au chocolat, nous ce qu'on recherche c'est le côté cacaoté et essayer de sucrer le moins possible, sans travailler pourtant avec des couvertures amères qui sont un peu astringentes. Donc voilà, là la magie elle est dans l'équilibre des goûts.
C'est fou comme vous en parlez, François, et on sent que vous aimez le chocolat. Moi, j'aimerais bien être une petite souris de Pâques hein, pour venir dans votre atelier et goûter tous les chocolats. Il n'y a jamais eu d'indigestion, genre vous allez manger trop de chocolat un jour. Quand vous avez commencé, par exemple, on n'est pas tenté de manger plein de chocolat?
Bien sûr qu'on est tenté. Mais la tentation, elle ne dure pas, hein, parce que je dirais qu'au bout d'un mois, ça y est, on est rassasié. Donc après, bien sûr qu'on goûte tout le temps. On goûte tout le temps ce qu'on fait.
Oui, entre goûter et se gaver, c'est pas pareil. Hein.
Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, je dirais que tous les apprentis qu'on a, au début, ils arrivent avec des grands yeux. et là, nous, surtout, on les retient pas. Tu veux manger, ben vas-y. Et ils se calment tout seuls.
Ouais. Merci beaucoup, François Granger, d'avoir été avec nous, chocolatier pâtissier dans le Périgord. Et on salue tous vos collègues hein, qui ont bossé comme des fous pour nous faire rêver encore en ce week-end de Pâques. À bientôt, François. Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on vous écoute nous parler de chocolat. C'est assez passionnel, hein, généralement, la relation qu'on a avec le chocolat. Mais si on demande aux gens d'où vient le chocolat, quand est-ce qu'il est arrivé, comment ça pousse, comment du fruit on fait une tablette de chocolat, bah bien souvent, c'est un petit peu le vide sidéral. Heureusement, ce soir, on a la chance d'avoir un spécialiste du chocolat. Il est économiste et historien, c'est Nikita Harwich. Bonsoir Nikita.
Bonsoir.
Vous êtes beaucoup intéressé au chocolat dans vos études et finalement, même si tout le monde connaît le chocolat, tout le monde ne sait pas forcément d'où il vient et comment l'histoire a commencé.
Tout à fait, surtout que c'est une histoire assez longue. Si l'on parle de la conquête de l'Europe, le chocolat arrive en Europe dans le courant du XVIe siècle, il y a donc plus de 500 ans. Mais le chocolat était connu dans le monde amérindien depuis, alors les découvertes ont permis de reculer ses origines, on parlait de 1500 avant Jésus-Christ, il semblerait maintenant avéré que le chocolat en tant que tel était déjà connu il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ.
Ah ouais. Il y avait quelque chose de mystique quand même au départ dans le cacao.
Tout à fait. La fève de cacao et les produits qui en étaient dérivés, bon, sans doute à cause de la nature un peu étrange de l'arbre, avaient été l'objet d'un culte dès les temps précolombiens les plus reculés, surtout comme une sorte d'offrande faite aux dieux. Et boire du chocolat dans le monde amérindien n'était pas un acte habituel, c'était oui. associé aux grands événements de la vie.
Et comment le chocolat est passé d'Amérique centrale jusqu'à nous? On le doit à qui, cette arrivée du chocolat en Europe?
Alors c'est bien sûr à cause de la conquête espagnole de l'Empire aztèque, empire qui à l'époque contrôlait des régions d'Amérique centrale où était cultivé le cacao. Et ce sont les Espagnols qui ont pour la première fois apporté les fèves de cacao en Europe. Alors les dates varient. Bon, il y en a qui disent que c'était après le retour d'Hernán Cortés en Espagne dans les années 1830. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la première cargaison avérée de fèves de cacao est arrivée à Séville à la fin du XVIe siècle. Ça, c'est avéré. Mais des fèves étaient déjà arrivées un peu auparavant.
Et c'était un produit de luxe quand il est arrivé, le chocolat? C'était pour les riches?
Bien sûr, parce que c'était un produit... un des produits américains qui ne pouvait pas se cultiver en Europe, au contraire du maïs, de la tomate ou de la pomme de terre, est donc un produit rare et surtout un produit qu'on ne pouvait consommer, comme aujourd'hui d'ailleurs, qu'avec l'adjonction de sucre, qui était une autre denrée extrêmement rare et extrêmement chère. Donc boire du chocolat n'était certainement pas à la portée de toutes les bourses.
Vous dites boire du chocolat parce qu'au début on ne buvait que le chocolat. On n'était pas encore sur la forme solide, tablette, chocolat, petit chocolat croqué.
Non, tout à fait. En fait, dans tout le monde amérindien, dans tout le monde précolombien, et dans ses premières utilisations en Europe pendant près de 3 siècles, le chocolat était avant tout une boisson. Une boisson qu'on prenait généralement le matin, c'était une boisson de petit déjeuner dont les qualités revigorantes étaient reconnues. En fait, le chocolat n'est devenu solide, enfin, ou consommé sous forme solide, qu'à partir du 19e siècle.
Vous qui vous êtes beaucoup penché sur l'histoire du chocolat, est-ce que vous l'aimez le chocolat? Est-ce que vous en êtes friand?
Oui, absolument. Enfin, je ne peux pas dire que j'en mange tout le temps, mais enfin, je suis friand. Surtout que il est quand même avéré que manger du chocolat de temps en temps est bon pour la santé.
C'est
si tant est que ce ne soit pas un chocolat trop sucré.
Du bon chocolat.
Plutôt du chocolat noir et si possible avec 100% beurre de cacao.
Vous êtes, j'ai vu, membre de l'Académie française du chocolat et de la confiserie. Ça veut dire quoi? Vous êtes là pour représenter, goûter, parler du chocolat? C'est quoi votre rôle?
Eh bien écoutez, l'Académie a été fondée avec des statuts qui ont été copiés sur ceux de l'Académie française, c'est-à-dire nous sommes 40 immortels. Si vous le voulez, qui nous occupons de défendre, disons qu'une certaine éthique, à la fois au niveau de la production et de la commercialisation du chocolat, et, ma foi, d'en faire connaître les vertus. Nous nous sommes également attelés à la tâche d'un dictionnaire qui est paru à la fin 2015. En fait, l'ouvrage était tellement important qu'on l'a intitulé « Encyclopédie du chocolat ». Et de la confiserie, où vous trouverez tout ce qu'il est bon de savoir sur la culture du cacao et toute l'histoire, toutes les techniques attenantes à la fabrication du chocolat tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Et je suis sûre qu'on apprécie mieux le chocolat quand on connaît son histoire. Merci beaucoup Nikita Arwitch d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu. C'était un plaisir.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et c'est un on se dit tout, tout chocolat qu'on vous propose ce soir en ce lundi de Pâques. Mais cette fois-ci, c'est le chocolat comme objet de collection dont nous allons parler avec Didier d'Orléans. Bonsoir Didier.
Bonsoir Vanessa.
Vous êtes collectionneur de chocolat, ou plus exactement collectionneur d'une marque de chocolat en particulier. C'est le chocolat Meunier. Pourquoi celui-ci?
Alors très simplement, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, c'est parti d'une adoration que j'ai pour mon grand-père, qui a travaillé toute sa vie à la chocolaterie Meunier, donc à Noisiel, en Seine-et-Marne, ainsi que son père, donc mon arrière-grand-père que je n'ai pas connu, de par cet amour par mon grand-père, un jour j'ai trouvé une petite boîte en bois qui était les caisses de tablettes de chocolat. Et puis, quand j'ai vu cette petite boîte dans son garage avec des clous et des vis à l'intérieur, donc cette boîte m'a plu. Donc j'ai été voir mon grand-père et je lui ai dit, Pépé, ta boîte me plaît, elle est très jolie. Il m'a dit, vas-y, je te l'offre. Et je lui ai dit, oui, mais il y a des vis et des clous. Il me dit, tu mets ça dans une autre boîte, il n'y a pas de problème. Et puis je dirais que c'est parti de cette petite boîte qui imite les caisses. Et puis après, je me suis dit, il doit bien exister d'autres objets. Et puis après, j'ai mis le doigt, la main, le bras. Et puis maintenant, j'y suis tout entier depuis plus de 30 ans. Quoi.
Et voilà. C'est facile de trouver ces objets liés au chocolat Meunier. Ça remonte à quand d'ailleurs, la boîte ou même l'objet le plus ancien que vous avez?
Alors, Meunier existe depuis 1816 déjà, le petit historique. C'est-à-dire qu'avant d'être chocolatier, ils étaient pharmaciens droguistes. Parce qu'il faut savoir que à l'époque, le chocolat n'était pas une confiserie. Ça servait à enrober certains médicaments pour faire passer l'amertume.
Ah ouais?
Et donc à la base, donc je possède bien entendu des objets et des documents de cette époque-là, c'est-à-dire où à l'époque ils étaient pharmaciens droguistes et non pas chocolatiers. Et c'est donc à partir d'une certaine année au début 19e que après ils ont, je ne sais plus si c'est Henri qui a racheté, non je crois que c'est avant, c'est Justin. J'ai plus le nom vraiment en tête, mais c'est Justin Meunier qui a donc racheté le moulin à Noisiel, pour pouvoir commencer à produire du chocolat en petite quantité à l'époque. Et puis après, l'usine s'est modernisée. Ils ont modernisé l'usine pour pouvoir produire, de plus en plus
de chocolat. Alors, on va pas forcément parler de l'histoire du chocolat, mais plus de votre collection, parce que c'est vraiment ça dont il est question. Vous avez combien d'objets aujourd'hui liés au chocolat Meunier?
Honnêtement, c'est pas la quantité qui m'intéresse, c'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment compté, mais à vue de nez comme ça, j'ai plus de 800 ou 1000 pièces.
Ah oui, quand même. Ça fait beaucoup. Oui. Et vous avez du chocolat, du vrai chocolat, ou c'est vraiment tout ce qui est lié au chocolat, mais pas le chocolat en lui-même? Est-ce que vous en gardez du chocolat?
Concernant le chocolat Meunier, vous voulez dire?
Oui, bien sûr, oui.
Alors, je possède effectivement des tablettes de chocolat de la fin du 19e.
Ah, et vous les avez ouvertes ou faut pas les ouvrir?
Alors, il y en a certaines qui étaient un petit peu abîmées. Je me suis permis d'en ouvrir et d'en goûter. Et je suis encore vivant.
Ça se conserve bien, le chocolat, aussi longtemps?
Alors, on va dire qu'il y avait quand même un petit goût, parce que tout dépend où le chocolat a été entreposé. Il y avait un petit goût un peu de vieux, de moisi, mais fallait que je goûte ce chocolat
Meunier. Vous avez goûté l'histoire, c'est un peu ça.
Voilà.
Est-ce que vous arrivez encore, Didier, à trouver de nouveaux objets? Comment vous faites pour les dénicher, ces anciens objets Meunier?
Avant d'avoir Internet, donc je faisais les ventes aux enchères de publicité ancienne, les brocantes, parce que je fais des brocantes tous les week-ends, tous les samedis et tous les dimanches, par connaissance aussi. Je fais aussi tous les salons de publicité qu'il y a en France. Et puis donc depuis début 2000, fin 90, début 2000, j'ai commencé à me mettre sur Internet et je dirais que au jour d'aujourd'hui, les plus belles pièces, je les sors sur Internet, tout simplement parce que donc il y a eu l'usine principale qui se trouvait à Noisiel en Seine-et-Marne, mais il y a eu aussi une usine donc chocolat Meunier à Londres en Angleterre et à New York aux États-Unis. Donc il y a aussi des objets dérivés que chaque pays a fait, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis et la France, chacun de son côté ont créé des objets sur le chocolat Meunier, donc à chaque époque, mais qui ne copiaient pas forcément sur...
Oui, chacun avait son propre marketing. Voilà. Didier, justement, pour terminer, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des pièces à la maison, on fait comment pour vous joindre sur Internet?
Les gens peuvent aller voir mon site, meunierfil.free.fr, c'est-à-dire M-E-N-I-E-R, phile.free.fr. Et donc, une fois sur mon site, ils peuvent aller visiter mon petit musée et puis ils peuvent me contacter. Donc, j'ai mes coordonnées téléphoniques si des gens ont des choses à donner, à vendre, à céder. Car pour moi, quand c'est récupéré, c'est sauvé, ça va au musée, tout simplement. Donc, je restaure aussi tous les objets que j'achète.
C'est une jolie collection, c'est une jolie passion aussi, cette passion pour le chocolat Meunier. Merci beaucoup Didier d'être venu témoigner ce soir sur France Bleu. Et on espère que suite à l'émission, il y aura plein de gens qui vont vous contacter ensuite. À bientôt Didier.
Ça sera un grand plaisir pour moi. Très bonne soirée à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Le chocolat est au cœur de nos discussions ce soir dans On se dit tout en ce lundi de Pâques. Le chocolat qu'on mange, qu'on collectionne, qu'on fabrique et qu'on cuisine aussi, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Pierre Cluizel. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Vous êtes restaurateur et dans votre établissement à Paris, on ne mange que du chocolat, de l'entrée au dessert.
Oui, alors...
Il y a toujours du chocolat en fait, c'est ce que je veux dire.
Exactement. L'idée dans l'établissement que j'ai créé il y a 6 ans et demi, un dimanche à Paris, c'était de proposer le chocolat sous toutes ses formes, mais pas forcément de façon toujours très présente. Donc on connaît le chocolat sous forme de tablettes, de bonbons de chocolat,
de crème au chocolat, etc.
Sous forme de pâtisserie, bien sûr, et on fait des pâtisseries extraordinaires, mais le plus insolite, effectivement, c'est de proposer le chocolat avec des associations gustatives, des combinaisons gustatives avec le salé. Et dans notre restaurant, avec un positionnement très gastronomique, on propose effectivement plusieurs plats et plusieurs entrées où l'on combine, alors avec des recettes parfois peu connu mais souvent très insolite justement, le chocolat et plus encore le cacao, parce que c'est pas la même chose. Le cacao, c'est la matière première, bien sûr, c'est l'ingrédient principal, mais la grande différence avec le chocolat, c'est que ce n'est pas sucré du tout et c'est donc plus facile à combiner justement avec des recettes salées.
Ça devient une épice en fait un peu.
Alors, c'est l'esprit que j'ai choisi parce que il existe des recettes anciennes, par exemple le lièvre à la royale, qui, sauf erreur, a été créé dans les années 50, qui là est avec une vraie sauce au chocolat, donc le chocolat est abondant. Ce que j'ai voulu faire, moi, c'est effectivement d'être dans l'esprit de l'épice cacao, c'est-à-dire plutôt par petites touches, à la façon donc des épices, bien sûr, de condiments, où on apporte une combinaison gustative, mais le cacao ou le chocolat ne sont pas dominants.
Un petit peu, mais pas trop. Alors, par exemple, ça se combine bien avec quoi, le cacao ? Sur quel type de poisson ?
Voilà, exactement. Nous avons des recettes, alors les plus connues, je dirais, c'est avec le foie gras. Ça, c'est une combinaison qui existait déjà, donc ça se marie effectivement très, très bien. On propose des recettes avec des viandes, des viandes rouges, des viandes blanches, également avec du poisson. Nous proposons actuellement, par exemple, à la carte, un carrelet avec justement un bouillon façon pot-au-feu qui est rehaussé de notes de cacao, qui sont des notes très très chaudes, donc ça c'est vraiment intéressant. Et nous proposons aussi parfois des recettes avec des fruits de mer. Et j'aime évoquer aussi une recette extraordinaire qu'on a depuis notre ouverture de fromage, hein, qui est un millefeuille de roquefort au chocolat blanc.
Oh là là, ça doit être terrible.
Avec une petite salade mélangée, une vinaigrette vinaigre balsamique et un petit peu justement de chocolat. Donc c'est vraiment une merveille.
Ça doit sentir drôlement bon chez vous.
Ah oui.
Ça embaume le chocolat, le cacao ?
Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Sentir le cacao, c'est quelque chose de très, un peu plus exotique, un peu plus chaud, un peu plus rond, je dirais, un petit peu plus équilibré. Quand sentir le chocolat, bah ça, ce sont les souvenirs qu'on peut avoir souvent de sa grand-mère ou même de chez soi quand on était plus petit. Notamment en faisant un chocolat chaud, par exemple. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes sensations, même si on reste quand même dans le même univers, malgré tout.
Qui sont vos clients, alors ? C'est vraiment des choco-addicts, comme Sylvia, qu'on a entendu tout à l'heure au début d'émission ? C'est des curieux, c'est des gourmets, ou c'est un peu tout le monde ?
Alors, au départ, mon travail et mon idée, c'est le goût. Avant tout, le goût. C'est-à-dire, je souhaite proposer des choses remarquables, des choses qui, sur le plan du goût, sont appréciées par les clients. Mais en deuxième plan, ce qui m'intéresse aussi, c'est de sortir des sentiers battus et de proposer autre chose que ce que l'on trouve la plupart du temps quand on va dans un restaurant. Donc l'idée d'avoir une épice différente de ce que l'on a l'habitude d'avoir, c'est pour moi l'occasion, une vraie occasion d'aller au restaurant, en dehors bien sûr du cadre et de la magie du lieu, et du service bien sûr aussi. Donc l'idée c'est quand même de faire des choses très très bonnes avant tout. Donc nos clients sont des personnes, hommes et femmes, qui veulent passer un très très bon moment, et découvrir en général.
Mais il n'y a pas des gens qui vous disent « Moi j'adore le chocolat, je suis venu chez vous parce que je sais qu'on va manger du chocolat de l'entrée au dessert. »
Oui, on a notamment, alors beaucoup de femmes sont addictes au chocolat en particulier, sans toujours vouloir trop l'avouer. Et effectivement, très souvent, des couples qui viennent, monsieur invite madame pour son anniversaire ou sans occasion particulière, juste pour le plaisir, et tout en sachant que madame adore le chocolat. Alors ça peut être madame qui invite monsieur. Hein,
Oui, on est moderne hein, quand même.
Exactement, mais oui, il y a des personnes qui viennent parce que justement elles sont absolument accro au chocolat, et puis on a aussi des pâtisseries formidables avec du chocolat, donc ça complète très bien le dîner.
On va en profiter pour faire un petit peu de pub pour votre établissement. S'il y a des addicts au chocolat qui nous écoutent et qui viennent sur Paris dans les prochaines semaines, vous nous dites tout ?
Alors, dimanche à Paris, c'est dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, plus précisément juste à côté du métro Odéon. C'est un bâtiment très beau avec une âme de 800 mètres carrés qui en plus est situé niché dans un petit passage pavé piéton très pittoresque. Dans le bâtiment, il y a plusieurs pièces, un peu comme dans une maison. Et dans la salle de restaurant, on a une tour médiévale qui date des remparts de Philippe Auguste, c'est 1210. Donc en fait, le bâtiment et nos espaces ont vraiment beaucoup de charme. Et en dehors du restaurant qui fait salon de thé et aussi brunch le dimanche avec un très beau buffet de pâtisserie, il y a une boutique attenante, un atelier pâtisserie où on voit les pâtissiers travailler. Et à l'étage, nous avons deux espaces privatifs, le lounge pour toutes sortes d'événements et la grande cuisine où on propose des ateliers cuisine, pâtisserie, chocolat et dégustation.
Bon, je termine l'émission et j'arrive tout de suite, Pierre.
Venez, ça.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu. Belle soirée à vous et à bientôt pour d'autres délices au chocolat. Donc à bientôt, Pierre.
Avec plaisir, au revoir.
Au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et on vous écoute nous parler de chocolat ce soir dans On se dit tout et c'est passionnant. On continue d'ailleurs jusqu'à 22h et c'est maintenant Stéphanie qui est avec nous depuis le Maine-et-Loire. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Alors vous, c'est votre fille qui est choco-addict, elle s'appelle Ornella, elle a 4 ans. Elle a 4
oui,
ans, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Donc Ornella, oui, qui est accro au chocolat depuis toute petite. Donc voilà, plusieurs petites anecdotes. Elle va jusqu'à cacher son chocolat sous ses oreillers, enfin voilà.
Ah ouais. Mais quand vous dites elle est accro au chocolat depuis toute petite, c'est-à-dire depuis qu'elle arrive à manger des choses toute seule, elle mange du chocolat.
Le chocolat, c'est surtout les fondants au chocolat qu'on cuisine, les gâteaux au chocolat. Et vraiment, elle mangeait des grosses parts à un an, alors que voilà, nous, c'est quand même la chose qui écœure aussi au bout d'un moment. Mais non, elle était toujours partante pour manger ça à un an. Et puis là, c'est vraiment de la folie, quoi. Elle fouille partout pour trouver du chocolat.
Elle est un peu droguée au chocolat à 4 ans.
Tout à fait, oui.
Mais comment ça se gère au quotidien? C'est-à-dire que vous êtes obligé de planquer le chocolat, vous êtes obligé de faire attention, de la surveiller?
Ben, on cache beaucoup parce que elle viderait, on lui laisserait une boîte, elle la vide en peu de temps, hein. Le matin, si je suis pas derrière, elle va manger des rochers ou des choses comme ça. L'autre jour, elle en a mangé 5 à la suite. Ouf. Donc, voilà, la boîte fait pas long feu. Donc, voilà, on cache le plus possible. Mais bon, elle attend toujours le moment où je quitte une pièce ou autre pour se jeter dans les placards et puis manger ou en emmener des réserves dans sa chambre, comme je vous dis.
Alors, la cachette, c'est quoi? C'est sous l'oreiller, alors?
Sous l'oreiller, et puis elle a un petit tiroir dans sa table de chevet où je retrouve pas que les papiers, quoi, en fin de compte.
Elle est consciente à 4 ans qu'elle est accro au chocolat? Comment ça se passe?
Oui, elle s'en rend bien compte. Et puis, de toute façon, dès qu'on a quelque chose à base de chocolat, il faut qu'elle dise « je vais trouver une super cachette tout de suite » pour pas que ses frères, ou son frère ou sa sœur le découvrent, ou même que nous, on le mange, quoi. Donc, c'est toujours à chercher une cachette pour son chocolat. Et c'est le matin au réveil, elle veut du chocolat, quoi.
Et si jamais, dans la journée, elle n'a pas de chocolat, vous avez remarqué que son comportement change, par exemple ?
Bah, quand elle est de très mauvaise humeur, qu'elle est pas, voit bien qu'elle, comme elle a un bon petit caractère, si je lui dis que je vais lui donner un carré de chocolat, bah là, ça va tout de suite beaucoup mieux, elle retrouve le sourire.
Mais ça vous arrive de la priver de chocolat?
Ah bah oui, mais c'est crise, mais c'est vraiment une crise. Hein. C'est voilà, quand elle découvre, enfin quand elle voit qu'on a trouvé sa cachette et qu'on lui mange son chocolat, mais elle nous fait des crises. on ne s'entend plus dans la maison hein, tellement elle est addict au chocolat.
Oui, mais on peut vraiment parler d'addiction là. Enfin, je sais pas, vous faire peur non plus, Stéphanie, mais vous en avez déjà parlé avec un médecin, par exemple, de se dire est-ce que c'est grave, est-ce que il faut faire attention.
Non, je dis c'est vrai qu'elle est très gourmande, mais bon de là, oui, j'en ai pas encore parlé au médecin. Non. Tout à fait, non. Elle va dès que je suis dans la salle de bain, elle court au pot de pâte à tartiner et puis c'est des tartines, des petites cuillerées quoi qu'elle mange en cachette quoi.
Et vous n'avez pas essayé de la dégoûter du chocolat? Vous savez, il y a des chocolats qui sont pas bons à force d'être tellement fort en chocolat à 90%. Vous n'avez pas essayé ça?
Non, parce qu'elle, elle les trouve bons quand même.
Ah oui, elle aime vraiment le chocolat. Quoi.
Oui, même le chocolat noir. Alors que bon, en général, c'est pas ce qu'on préfère. Enfin, apparemment, ceux qui sont très accros au chocolat, c'est le préféré. Mais elle adore voilà, le chocolat noir aussi.
Faites-lui tester le chocolat noir à 90%.
Oui, on va
voir
si des fois elle aura le même.
Ça fait un peu bizarre, hein, je vous assure. Hein.
La dégoûter un petit peu, voilà.
Ornella, addict au chocolat, donc à 4 ans. Merci voilà. Stéphanie d'être venue nous en parler.
Je vous en prie.
Et bon courage. Hein.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Allez, bonne soirée, au revoir.
Bonsoir sur France Bleu, on se dit tout.
Et c'est une spéciale chocolat que nous vous proposons en ce lundi de Pâques sur France Bleu. Nous allons maintenant partir dans le temple du chocolat. On peut le dire comme ça, un musée consacré entièrement au chocolat. C'est le musée gourmand du chocolat qui se trouve à Paris. Et Alice Sago est justement avec nous pour nous en parler. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Un musée tout chocolat, certains en rêvent et vous l'avez fait.
C'est ça exactement, on est un musée effectivement qui raconte toute l'histoire du chocolat, donc 4000 ans d'histoire avec un millier de pièces authentiques et puis également des sculptures extraordinaires en chocolat, des dégustations, des démonstrations et des ateliers de confection de chocolat.
Alors moi j'aimerais bien qu'on revienne sur les créations, les réalisations, vous dites des créations géantes, comment on fait pour fabriquer tout ça et pour pas qu'elles se cassent, pour pas qu'elles fondent, pour pas qu'elles se fassent croquer un bout au passage?
Alors effectivement nos sculptures sont protégées et on est un musée climatisé, hein. Comme vous dites, il ne faut pas que nos sculptures fondent en été. On a travaillé avec des grands artistes chocolatiers ou meilleurs ouvriers de France pour réaliser nos sculptures en chocolat. On a par exemple une tour Eiffel qui mesure plus de 3 mètres de haut, qui a été réalisée par un artiste chocolatier qui s'appelle Jean-Luc de Cluseau, qui travaille chez Léonidas. Donc c'est une des sculptures qu'on peut trouver au musée du chocolat.
Alors c'est très tentant quand on voit et qu'on sent du chocolat absolument partout, d'avoir envie d'en manger. C'est possible d'en manger chez vous, rassurez-moi.
Ah oui, heureusement, on propose de grands crus de cacao à déguster à la fois en début de visite et puis également pendant une démonstration de nos chocolatiers où ils vont faire du coup des chocolats au praliné devant nos visiteurs et qu'ils proposent ensuite à la dégustation ainsi que de nouveaux grands crus de cacao.
Les gens sont surpris parfois, ils découvrent un petit peu le chocolat, ils n'imaginent pas que ça commence par le cacao justement, par, j'ai oublié le nom,
la fève, fève, exactement. Alors ils découvrent ça au musée et puis ils découvrent aussi toute l'histoire. En général, on n'imagine pas que ça fait 4000 ans qu'on consomme du cacao, d'abord sous forme de boisson et puis plus tard sous forme solide. Donc effectivement, on découvre toute cette histoire au musée.
On mange le chocolat différemment en fin de visite quand on a appris d'où il venait, comment il était fabriqué. Est-ce que les gens qui étaient un peu gloutons au début sont un petit peu plus raffinés à la fin?
Je pense qu'on apprend à déguster effectivement et on va vraiment découvrir qu'il peut avoir des saveurs complètement différentes en fonction de sa provenance. C'est ce qu'on essaye d'expliquer à nos visiteurs. Un chocolat qui vient du Vietnam n'aura pas la même saveur qu'un chocolat qui vient d'Afrique ou d'Amérique du Sud.
Vous aimez, vous, le chocolat, Alice?
Oui, j'adore ça.
Ouais. C'est mieux quand on travaille au musée du chocolat. Bah oui. Il y a des people qui aiment le chocolat, qui sont passés par le musée. Vous savez aujourd'hui que telle ou telle célébrité est un fan de chocolat?
Eh bah, bien sûr, on a par exemple Belmondo qui est un grand fan de chocolat et qui nous a fait l'honneur de venir inaugurer notre tour Eiffel l'année dernière. Donc c'est un de nos grands fans effectivement de cacao. Vous avez aussi Séverine Ferrer par exemple qui a défilé au Salon du chocolat dans des robes, qui est venue aussi au musée nous voir. Enfin voilà, effectivement, il y a des grands fans de chocolat et on les retrouve au musée.
Bah c'est chouette ça, il faut en profiter. Alors là, Pâques est terminée, mais ce n'est pas parce que Pâques est finie qu'on ne peut pas profiter du musée, c'est toute l'année.
goûter toute l'année, qu'on peut aimer le chocolat et venir le déguster au musée.
Alors pour ceux qui ne sont pas à Paris, parce qu'on est quand même nombreux à être loin de Paris, mais on peut se caler aller des vacances pour les prochaines fois ou un petit week-end, on vous retrouve où, Alice ?
Alors on est sur les grands boulevards, on est au niveau de la station Bonne Nouvelle.
D'accord. Ah ben voilà, comme ça, il faut préparer sa visite et il faut préparer une plongée dans l'univers du chocolat grâce à vous. Merci beaucoup, Alice.
Merci à vous.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Le chocolat, c'est le thème qu'on a choisi pour vous. Ce soir, dans On se dit tout, en ce lundi de Pâques, on a joué les curieux, on a joué les gourmands aussi depuis le début de l'émission. Et on va la terminer en se détendant, direction le salon de beauté pour des soins au chocolat. Oui, au chocolat. Et c'est Fatou en Loire-Atlantique qui nous a rejoint. Bonsoir Fatou.
Bonsoir Vanessa.
Vous êtes docteur en médecine et cosmétologue. Vous avez mis au point des recettes de cosmétiques à base de chocolat. Comment vous est venue l'idée en fait ?
Alors le chocolat c'est toujours très tendance. Dans cette ère du temps où les gens ont besoin de réconfort, c'est vrai que la cosmétique gourmande et en particulier le cacao est un ingrédient très prisé pour faire des soins de beauté. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire des cosmétiques au chocolat.
Alors, quel est l'impact du chocolat sur notre peau ? Qu'est-ce qu'il fait de bien ou de bon, le chocolat ?
Alors, déjà, ça va faire du bien au moral, parce qu'un soin au cacao, donc un soin chocolaté, ça va être un soin très sensoriel, qui va faire plaisir à recevoir. Ça va faire également plaisir à la peau, tout simplement, parce que souvent, les soins au chocolat contiennent du beurre de cacao. Et le beurre de cacao est très riche en vitamine A et E, qui sont des vitamines particulièrement bienfaisantes pour la peau, parce qu'elles vont participer avec la vitamine A à la régénération de la peau. Quant à la vitamine E, elle va jouer un rôle protecteur, notamment au niveau du soleil. Elle va aider la peau à lutter contre les radicaux libres et se protéger du soleil.
Ça veut dire peut faire... Oui, pardon.
Par ailleurs, le beurre de cacao en soi va être très émollient, c'est-à-dire il va aider à assouplir la peau et va l'aider à rester hydratée par les corps gras qu'il va apporter.
Ça veut dire qu'on peut faire des cures entières à base de chocolat ? On peut se faire des masques ? Est-ce qu'il y a des crèmes de jour, par exemple, au chocolat ? Il y a des laits hydratants ? Vous parlez du beurre de cacao. On peut avoir une gamme complète de produits à base de chocolat ?
Tout à fait. On peut rajouter donc du beurre de cacao extrait de la fève dans beaucoup de produits. Au départ, d'ailleurs, le beurre de cacao était utilisé comme excipient, c'est-à-dire comme simple vecteur des autres actifs. Et c'est au fil du temps cosmétologique qu'il a acquis ses lettres de noblesse. Donc on peut en trouver dans de nombreux de produits et il convient tout particulièrement aux peaux sèches.
Aux peaux sèches. C'est ça.
Tout à fait.
Ouais. Alors évidemment, c'est pas le même chocolat que celui qu'on mange, celui que vous utilisez en cosmétique.
Alors si, tout à fait. Donc on a un masque au chocolat que l'on appelle Nutrifique Chocolat et c'est de la poudre de cacao biologique et équitable qui est incorporée dans le masque au chocolat. Nous avons une huile visage et corps parfum chocolat et là on travaille également avec de la poudre de cacao et cette huile est même comestible.
Mais si alors par exemple je me mets de l'huile sur le corps, je peux mettre mon doigt dessus et le mettre dans ma bouche, il n'y a pas de souci.
Alors cette huile-là est comestible, mais je ne suis pas en train de dire que tous les cosmétiques
de cacao
sont comestibles.
Non, parce que moi je suis une gourmande, attention hein, Fatou.
Oui, je comprends. Certains produits au cacao peuvent être comestibles, mais il faut bien s'assurer que c'est le cas. Notre masque au chocolat, par exemple, bien qu'il ait l'air fort appétissant, ne l'est pas.
Oui, mais ça sent le chocolat. Il y a ce côté aussi réconfortant de l'odeur du chocolat, ce qui fait qu'on a parlé des addicts du chocolat. Il y a certainement des gens qui vont chercher vos produits parce qu'ils aiment le chocolat.
Ah oui, ça sent des produits, les masques au chocolat, les miens et les autres sont des produits qui sentent vraiment le cacao. Donc c'est un délice pour tous les accros du cacao, ça c'est sûr.
Bon, on en profite puisque c'est la fin de l'émission et qu'on l'a fait pour les autres, il n'y a pas de raison. Parlez-nous de vos produits, faites un petit peu de pub au passage, Fatou.
Ah bah écoute. C'est très gentil, Vanessa. Donc, Claire Joie, c'est une marque de cosmétiques naturels et biologiques. Et donc, nous sommes distribués en institut de beauté, en spa et sur clairejoie.com. Et en ce qui concerne les soins au chocolat, puisqu'il s'agit de réconfort, il est important que le réconfort ici ne génère pas de la peine là-bas. Et donc, c'est du cacao biologique et équitable.
Ouais, c'est bien de le rappeler, c'est bien de le faire dans ce cadre-là, surtout. Merci beaucoup, Fatou, d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu. Et vivement qu'on puisse plonger dans des piscines entières de chocolat. Parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. On l'a bien entendu. À bientôt, Fatou.
Merci à vous.
Au revoir.